Le masque sans la plume.
Je suis allé voir Un métier sérieux de Thomas Lilti. C'est l'histoire de Vincent Lacoste qui est prof de maths et qui arrive dans un collège. Et en fait, c'est son histoire à lui en tant que nouveau prof avec tous ses collègues profs. C'est comme la BD Les Profs, mais en pas marrant. C'est un casting comme qui dirait 5 étoiles. Adèle Exarchopoulos, qui est professeure de mathématiques également. Et j'aurais adoré avoir Adèle Exarchopoulos en prof de maths. Je pense que j'aurais eu des meilleures notes. Déjà parce qu'elle est trop belle. Mais aussi, figurez-vous, parce qu'elle a l'air d'être une super prof. Il y a François Cluzet. J'ai quand même mis une bonne demi-heure du film à comprendre qu'il était prof de français. Parce que bon, à part faire le vieux prof. On adore François Cluzet également, ce qu'aime le parrain de notre fils, donc on l'adore. Il y a également Louise Bourgoin, qui est la caricature de la professeure de SVT chiante. Ils ont réussi à l'amochir, ils lui ont fait une ugly Betty à la pauvre Louise Bourgoin, mais ça marche vachement bien. C'est vraiment la prof aigrie, bah, vous verrez dans le film pourquoi, un peu dépressive. Il y a également Willem Lebgill qui fait le prof d'anglais. Et c'est le prof marrant, c'est-à-dire que les élèves l'adorent, il fait des bonnes blagues et tout ça. Il utilise des excellentes expressions, tout bonnement comme le mot « cuistoche » pour parler d'une cuisine. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que j'ai oublié des profs? Non, ben, il y a des profs de sport dont on ne connaît pas le prénom parce qu'ils ne sont pas importants. Preuve de la place que l'on donne au sport dans l'éducation nationale, j'ai l'impression. Le but du film, c'est de suivre la vie quotidienne de ces profs avec à la fois les moments chouettes et les moments moins chouettes dans leur vie de prof, mais aussi un peu dans leur vie personnelle. Il y a plein de petites intrigues qui se dessinent entre les personnages et tout ça. C'est vraiment un bon film. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment, même si j'ai regretté que ça aille pas assez loin dans les intrigues des personnages, notamment leurs intrigues personnelles. Il y a notamment une prof. On la voit 10 minutes, on sait juste qu'elle est chez elle, elle galère à faire ses cours avec son enfant, et c'est tout ce qu'on sait, quoi. C'est un film qui, quand même, est assez marrant parce qu'il y a plein de petits gags et c'est surtout des comiques de situation, notamment l'histoire de François Cluzet et Francis Cabrel, moi, qui m'a beaucoup fait rire. Je vous spoil pas plus. Franchement, on a pas mal ri et en même temps, c'est un film qui fait réfléchir. Bref, c'est un film France Inter. Ça ramène à des souvenirs de collège parce qu'en fait, derrière tous les profs, on reconnaît des profs qu'on a eus. C'est assez caricatural à première vue parce qu'on se dit « Oh là là, il y a le prof marrant, il y a la prof chiante, il y a la prof que tout le monde aime, il y a le jeune prof qui se fait bizuter un peu par tout le monde mais qu'au final, les gens aiment bien. » Mais en fait, quand on y réfléchit, on a tous connu des profs comme ça. La prof de maths trop cool que tout le monde adore, ça m'a rappelé mon prof de maths, Monsieur Vuotto, si jamais il écoute, on l'embrasse. La prof un peu neurasthénique, ça m'a rappelé une autre professeure, cette fois je ne citerai pas son nom, vous m'en excuserez pour protéger sa dignité, c'était quand même ma prof d'anglais. Je sais pas si ça donne vraiment envie d'être prof, ça a l'air quand même de leur prendre la tête H24, sans spoiler le film, mais à un moment il y a un des profs qui a un problème avec un élève et en fait il n'endort pas la nuit quoi, donc... Après, vraiment, si j'avais dû être prof, évidemment, j'aurais été prof d'italiano, parce que voilà, c'est ma langue de cœur, je ne dirais pas ma langue maternelle, mais presque. Per questo film può donare la nota di... Non, je déconne. Ce film, je donnerai la note de 4 étoiles. Même 4 étoiles et demie, allez. Non, 4 étoiles. 4 étoiles, faut pas déconner.
Cette semaine, je suis allé voir Le Livre des Solutions de Michel Gondry avec Pierre Niney et Blanche Gardin. Et il y en a d'autres, mais j'ai un peu oublié leur nom. Ah oui, il y a l'actrice d'EDF, la pub EDF. Qu'est-ce que ce film raconte? C'est donc l'histoire de Marc Becker, donc joué par Pierre Niney, qui est un réalisateur un peu fou, qui essaye de terminer son film, malgré le fait que la production ne veut plus que ce film continue parce que ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Du coup, il vole le film et essaye de terminer le montage. Ils partent à la campagne chez sa tante, une vieille dame très gentille, qui l'accueille donc lui et donc Blanche Gardin qui est la monteuse en fait, et l'autre qui s'occupe vraiment de toute l'organisation, toute la logistique. Et j'ai oublié un personnage très drôle, Carlos, l'assistant monteur, qui a la particularité de tousser très souvent et de se faire régulièrement engueuler par Pierre Niney. Donc Marc Becker, c'est un réalisateur qui est apparemment un génie, mais en fait c'est quand même un sacré con. Il est hyper autoritaire, complètement taré, colérique, très désagréable très souvent, surtout extrêmement désordonné. Et il a un blocage, il n'arrive pas à voir une seule V1 de son film, qui par ailleurs dure 4 heures, je crois. Dès qu'il a une idée en tête, il veut aller jusqu'au bout. Il réveille les gens en pleine nuit pour leur dire de trouver un orchestre alors qu'on est en plein milieu de la campagne. Il crie sur tout le monde quand il n'est pas content. Sa tante passe son temps à lui dire de s'excuser. Et donc il a une liste longue comme le bras de gens auxquels il doit s'excuser. Comme il a un espèce de blocage, on ne sait pas trop pourquoi, mais il ne veut pas visionner ce qui a déjà été monté pour voir ce qu'il faut finir. Du coup, il trouve plein d'autres prétextes pour ralentir le montage, en fait, à savoir demander de le recommencer, mais en faisant tout à l'envers. Il invente un camiontage, donc c'est un vieux camion en plus, sur lequel il a branché une télé, un magnéto. Enfin voilà, il se fait chier à faire un truc aussi long pour rien, parce que ça ne sert à rien, c'est pas du tout pratique pour monter. Le passage avec l'orchestre est assez marrant, parce que bon, je vais pas dire comment ils se démerdent, mais c'est impossible normalement de faire ce qu'ils font avec l'orchestre. Il leur demande un truc qui est franchement impossible. Il y a un moment, on sait pas pourquoi, il devient maire. et en fait, c'est ça tout le film. Il ouvre plein de portes, il les referme pas toujours. On sait pas trop pourquoi il y a ces choses-là, et pourquoi ça va dans cette direction. Mais c'est assez rigolo quand même, du coup, parce qu'effectivement, il y a plein de péripéties au milieu qui n'ont pas forcément de conclusion, c'est juste là. Marc Becker, c'est donc un autoportrait en fait de Michel Gondry, qui est effectivement un réalisateur pétri de talent et très poétique, mais en fait, apparemment, qui est exactement comme ça sur les tournages, très problématique, très toxique, complètement désordonné. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. C'est peut-être même mon film préféré de l'année. Ou alors j'ai oublié les films d'avant, mais je vais mettre un bon 4 étoiles et demi. Je laisse une petite marge, tout simplement parce que je ne peux pas non plus cautionner complètement le comportement de Pierre Niney et donc de Michel Gondry. Mais je recommande quand même vivement d'aller voir le film. Quand tu sors du film, t'es content, t'es un peu sur un nuage. Tout est super. La réalisation, le montage, les dialogues, tout. Donc franchement, allez-y.
J'ai été voir Anatomie d'une chute, qui est la palme d'or du Festival de Cannes 2023. Le pitch du film, c'est l'histoire d'un couple. Le mec meurt dès le début, il est retrouvé en bas de sa maison, mort. Et on va passer tout le long du film à suivre le parcours du couple et surtout sa femme, qui est accusée de possiblement avoir poussé ce mec. Il y a aussi un enfant, leur enfant, qui est témoin de ce qui s'est passé, mais qui en fait est aveugle, donc qui a entendu des choses mais qui n'a rien vu. Et donc c'est vraiment l'idée de suivre le parcours de cette femme et de ce couple. Le film est tenu par Sandra Hüller, qui est une actrice allemande, qui joue donc le rôle de la femme. Il y a le mari, qu'on voit assez peu au final parce que il est mort, hein. No spoiler, c'est dès le début. L'autre personnage hyper important, c'est le fils. Assez rapidement, la police se dit qu'il n'a pas pu tomber sans faire exprès d'une chute. Donc la police tout de suite s'interroge sur la responsabilité de la femme. Pendant que elle, de son côté, avec son avocat, qui est joué par Swan Arlo, qui est super, eux se disent en fait on va nous accuser, donc il va falloir qu'on trouve une autre explication, et qui va donc être le suicide. Donc ça va se jouer un peu là-dessus, et l'enfant il est pris au milieu de tout ça. Et donc le procès, Sandra Hüller est accusée d'avoir poussé son mari. Donc on suit l'avocat général, qui est joué par, je n'ai pas son nom, qui est super. Il est incisif, on a envie de le détester. Enfin, on le déteste, mais en même temps, c'est un travail ultra intéressant. Et on va suivre elle qui se défend et qui essaie d'expliquer, en fait, comment fonctionnait son couple, comment elle fonctionne, parce qu'en fait, on l'accuse d'être une personne très froide, d'avoir fait passer sa carrière avant celle de son mari, de pas lui laisser d'espace, que ce soit lui qui gère toute la charge du couple, du fonctionnement. Et elle est assez implacable en disant, mais en fait, si tu veux écrire, trouve le temps d'écrire. Dis-le-moi. Et ce qui est prégnant tout le long du film, c'est que à aucun moment on cherche à nous dire c'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, la réalisatrice Justine Triet a dit dans plusieurs interviews qu'en fait elle-même, elle était même pas sûre de savoir si elle l'avait tué ou pas en fait. Et à la fin, le procès termine, il y a un verdict. On dira pas lequel, mais en fait, que ce soit celui-ci ou un autre, en fait, on sort de là sans même savoir si c'est vraiment le bon verdict. Enfin, en fait, on se pose vraiment pas la question. C'est vraiment tout le déroulé du film qui est intéressant en fait dans Anatomie d'une chute. Un des autres personnages clés, c'est le chien. Je ne sais même pas comment il s'appelle, ce chien. Le film déjà souffle sur lui, sur le fils qui est en train de le laver, et une balle qui tombe dans les escaliers. Il est quand même hyper présent tout le long du film, et déjà, il est trop mignon. Et en fait, il a un rôle de ouf, en fait. Ce chien a eu une palme d'or à Cannes, et ce n'est pas pour rien. Donc allez voir ce film, rien que pour essayer de comprendre comment un chien peut avoir une palme d'or. J'ai décidé de mettre 4,5 étoiles. C'est tout simplement très, 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 très bien. C'est extrêmement bien amené. C'est quand même 2h40. Il y a quand même au moins une bonne heure au tribunal. On est pris dans le truc, mais à 100%, à aucun moment, on décroche. Le rythme est vraiment, vraiment fou. Enfin, faut tout simplement aller voir ce film, quoi.
Le chat, ça va? Oui, pardon, je fais preuve d'autant d'autorité avec mon chat que la prof de SVT dans le film.